Vous êtes bien sûr Radio Orient, il est midi, le journal François-Xavier de Calonne. L'entrée au Panthéon en fin d'après-midi de la chanteuse et résistante française Joséphine Baker. Nous y reviendrons avec la vice-présidente de SOS Racisme, Safia Aït Warabi. Nous avons besoin de symboles et décisions de cet ordre. Des mots du président de la Fondation de l'Islam de France à l'occasion de cette panthéonisation. Khaled Bencher sera l'un de nos invités. Face à la propagation du variant Omicron du coronavirus, plusieurs pays ferment leurs frontières aux voyageurs étrangers. De son côté, la Tunisie met à jour ses conditions d'entrée. Nous écouterons le docteur et ancien ministre tunisien Khalil Zaouia. Un premier cas positif au variant Omicron identifié sur l'île française de La Réunion. Une annonce aujourd'hui du porte-parole du gouvernement. La Coupe arabe 2021 s'est ouverte aujourd'hui au Qatar. Elle débute par une rencontre Tunisie-Mauritanie. L'entrée au Panthéon, cette fin d'après-midi de Joséphine Baker. Elle intervient le jour anniversaire de l'acquisition par l'artiste de la nationalité française en 1937. La décision avait été prise par le chef de l'État le 21 juillet dernier, soit avant le déclenchement de la campagne présidentielle. Une décision saluée par la vice-présidente de SOS Racisme, Safia Aït Warabi.
SOS Racisme, évidemment qu'on accueille la panthéonisation de Joséphine Baker sous un très bon œil et avec un grand enthousiasme, étant donné aussi l'actualité. C'est un beau pied de nez aussi à l'actualité. Et puis aussi, en tout cas me concernant en tant que femme et militante antiraciste française issue de l'immigration, Joséphine Baker présente un tas d'ensemble, un tas de symboles qui me dit que, eh bien, malgré ce qu'il se dit en ce moment, moi aussi, j'ai ma place en France, quoi qu'il en coûte.
En cela, c'est un élément particulièrement important pour l'ensemble des Français.
Exactement. Joséphine Baker, c'est ce symbole déjà du féminisme, d'une femme qui se joue, qui se déjoue, qui détricote les symboles dont, par exemple, la femme noire aux États-Unis ou en France peut être assignée par rapport à l'esclavage, la colonisation, hein, ces symboles qui restent encore dans la société, même encore aujourd'hui. Donc, en cela, c'est aussi une icône féministe. Joséphine Baker, c'est également une icône antifasciste pour son rôle, évidemment, dans la résistance. Et puis, c'est aussi et surtout une icône antiraciste. Évidemment pour son rôle dans la résistance face au nazisme, mais aussi aux côtés de Martin Luther King. Joséphine Baker, elle a su employer, réemployer toutes ses casquettes, donc sa panthéonisation aujourd'hui en France est plus que nécessaire pour rappeler que ses valeurs d'antiracisme, d'antifascisme, de féminisme, les valeurs pour l'égalité en général doivent être une réalité.
Si vous deviez parler de Joséphine Baker à une jeune personne, que diriez-vous ?
Alors, si je devais parler de Joséphine Baker à une jeune personne, je lui dirais que Joséphine Baker, eh bien, c'est cette femme qui déjà a choisi la France, a choisi d'être naturalisée française, parce que déjà, elle trouvait qu'elle était plus libre, qu'elle se défaisait du racisme qui pesait énormément aux États-Unis par rapport à la ségrégation, etc. Joséphine Baker, c'est cette femme qui a fait le choix de la liberté. Joséphine Baker, c'est la personne qui a fait le choix du combat pour l'égalité, pour la fraternité. Joséphine Baker, c'est une femme qui représente tout un symbole et qui va être panthéonisée, ce mardi 30 novembre, parce qu'elle représente ce que la France a de meilleur.
Vous avez affirmé que c'était un événement important, notamment dans le contexte ambiant. Ce contexte, comment est-ce que vous pouvez le décrire? Et est-ce que justement, cette entrée au Panthéon, eh bien, cela permet de s'élever et puis peut-être d'élever le débat?
Effectivement, l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, elle arrive à un moment, je pense, crucial dans notre société française. Elle arrive à un moment où le débat politique s'affaisse, où l'égalité n'est plus quelque chose qui est au centre de nos débats politiques, où des personnalités condamnées de multiples fois pour racisme, et là je pense aux extrêmes droites quelles qu'elles soient, et notamment à Éric Zemmour, viennent truster le discours public, politique et médiatique, où on vient dire à de jeunes personnes françaises que leur prénom n'irait pas, leurs identités n'iraient pas, leur religion n'irait pas, leurs croyances non plus, où on viendrait dire aussi à une jeunesse que non, il ne faut pas tellement croire à l'égalité, qu'il ne faut pas tellement croire à un bel avenir, et effectivement, où du coup, on est dans une bassesse du débat politique. Et en fait, Joséphine Baker, elle vient contredire toute cette ambiance, elle vient contredire que, en fait, eh bien, effectivement, le fait d'être une femme, le fait d'être noire, c'est aussi être française, et je pense que ça va faire du bien à beaucoup de jeunes qui aujourd'hui n'arrivent plus à se reconnaître dans les discours politiques très durs du moment.
Safia Haït Warabi, vice-présidente de SOS Racisme. Nous avons besoin de symboles et décisions de cet ordre. Joséphine Baker est une femme de cœur, de générosité, qui a incarné à la fois la tendresse comme mère adoptive et aussi les valeurs d'humanisme qui nous sont chères à tous. Propos signé Raleb Bencher, le président de la Fondation de l'Islam de France, qui à l'occasion de cette entrée au Panthéon s'exprime en tant que personnalité publique. Raleb Bencher.
J'accueille cette panthéonisation avec beaucoup de joie et de satisfaction. Et j'en sais gré au président de la République d'avoir décidé cela. Je pense que la décision a été prise, à ma connaissance, le 21 juillet, mais elle est toujours la bienvenue, puisqu'entre-temps, tout un discours de haine et d'outrance a caractérisé la vie politique et médiatique française, et nous avons besoin de symboles et de décisions dans cet ordre. Joséphine Baker est une femme de cœur, de générosité, et qui a incarné à la fois la tendresse comme mère adoptive et aussi celle qui a incarné les valeurs humanistes qui nous sont chères à tous.
Et la mise en lumière de son message de fraternité à travers son entrée au Panthéon, vous estimez qu'elle arrive à point nommé durant cette campagne particulière?
Oui, elle arrive à point nommé. Ce n'est que lui rendre justice à elle, si je puis dire, elle qui à la fois a fui une Amérique de racisme, qui est venu vers et qui a adopté une France de générosité et d'accueil et d'hospitalité, qui a su la lui rendre, je parle d'elle, en épousant un homme juif, c'est pour dire aussi son ouverture sur d'autres traditions et d'autres cultures et d'autres religions, et a servi la France, au moment même d'un temps très sombre et d'une réelle difficulté et d'épreuve de guerre et d'occupation, donc elle a été dans la résistance, et c'est aussi une femme qui, finalement, par toute sa trajectoire de vie, répond à tout ce qui s'interroge, aux identitaristes de tous bords et aux extrémistes de tous bords aussi. J'ai entendu quelques-uns dire « Oui, mais ce n'est que l'arbre qui va cacher la forêt d'une France encore tendue et raciste ». Je ne partage pas ce point de vue parce que toute généralisation est abusive. Au contraire, il faut aller petit à petit dans cette symbolique qui réconcilie l'ensemble des Français.
C'est une symbolique importante, notamment pour la jeunesse en France.
Assurément, oui, cette symbolique est importante pour la jeunesse, qui comprendra que les valeurs, d'abord républicaines, que nous avons tous sur les frontons de nos mairies, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, peuvent être incarnées et vécues par des citoyennes et des citoyens. Et l'exemple de Joséphine Baker est un exemple patent, parlant, et aussi au-delà, il y a l'amour de la patrie, il y a la reconnaissance, et il y a cette idée de faire partie, en principe en tout cas, d'un récit commun, d'une aventure commune, d'un roman français pour tout le monde.
Le président de la Fondation de l'Islam de France, Raleb Bencher. Face à la propagation du variant Omicron du coronavirus, plusieurs pays ferment leurs frontières aux voyageurs étrangers. De son côté, la Tunisie met à jour ses conditions d'entrée. Entretien avec l'ancien ministre et président d'État catholique, le docteur Halil Zawiya.
La Tunisie a réagi de manière précautionneuse. D'abord, il y a une exigence d'un test, d'une vaccination et d'un test PCR négatif pour pouvoir entrer en Tunisie. Et puis par une accentuation des campagnes de vaccination. Ce n'est pas encore obligatoire, mais une troisième vaccination est devenue de mise actuellement pour les personnes qui ont plus de 40 ans. C'est vrai que pour le moment, on n'a pas recensé de cas avec la nouvelle variante. Nous restons avec un taux très très faible, moins de 2%, avec peut-être une quinzaine de patients qui sont en réanimation sous assistance respiratoire. On reste quand même très prudent.
Quel est le pourcentage de la population vaccinée aujourd'hui en Tunisie, les personnes qui ont reçu un schéma complet?
Si on compte l'ensemble de la population, nous sommes autour de 40%. Si on compte pas les enfants de moins de 15 ans, on est un peu plus que 60%.
Et c'est une campagne qui est donc amenée à s'accélérer?
Oui, il faut dire que depuis la dernière forte vague qu'on a eue au mois de juillet avec des milliers de décès, l'épidémie s'est calmée. Donc, je ne dirais pas qu'il y a c'est pas une réticence ou un refus, mais la population trouve que bon, la vague est passée, on va voir par la suite. Les Tunisiens ne sont pas très inquiets. C'est une réaction qu'on n'arrive pas à comprendre, mais c'est comme ça.
En tant que médecin, quel procédé utilisez-vous pour tenter de convaincre les personnes réticentes?
D'abord, il faudrait qu'il y ait des campagnes au sein des écoles et des lycées, parce que il y a quand même un taux qui n'est pas négligeable, je n'ai pas les chiffres sincèrement, mais un taux qui n'est pas négligeable de personnel enseignant, hein, de corps enseignant, qui ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est un peu inquiétant, parce que on sait qu'actuellement, c'est les enfants et les adolescents qui sont les vecteurs de la contamination. Et avec un taux de vaccination qui ne dépasse pas 50% au sein du corps enseignant, on risque d'avoir une remontée des cas. Mais pour le moment, ça se passe pas trop mal. Je sais pas, il y a comme une expectative un peu passive des Tunisiens.
Et quelles sont les mesures contraignantes aujourd'hui en Tunisie liées à cette crise sanitaire internationale?
Les seules mesures contraignantes, c'est d'être vacciné et d'avoir un test PCR négatif à l'entrée de la Tunisie. C'est tout.
Il n'y a pas de pass sanitaire aujourd'hui en Tunisie?
Le pass deviendra obligatoire à partir du 22 décembre.
Et quelles seront les modalités pour obtenir ce pass?
Ce pass, il faut être vacciné, avoir fait au moins deux vaccinations. Et bon, on peut l'avoir sur Internet, quoi. Il y a une base qu'on appelle EVAX qui nous permet d'accéder à ce pass sanitaire.
Et quels lieux sont ou seront concernés par ce pass sanitaire?
Tous les lieux publics, hein. Mis à part les structures de soins, les hôpitaux, tous les autres lieux, on ne pourra y aller public, même pour aller à la poste, hein, on ne pourra y accéder qu'avec un pass sanitaire.
Et vous dites que vous bénéficiez aujourd'hui de suffisamment de doses pour l'ensemble des personnes éligibles à la vaccination?
Oui, tout à fait, tout à fait. Il n'y a plus de, on n'a plus de pénurie de doses de vaccin. Tout est disponible.
Vous attendez peut-être donc à une demande élevée dans les jours à venir, à l'approche de cette échéance en décembre?
Certainement qu'il va y avoir un afflux pour se faire vacciner dès que le pass sanitaire entrera en vigueur. Un petit peu comme ça s'est passé en France.
Et c'est une mesure qui est populaire en Tunisie ou non, l'entrée en vigueur de ce pass sanitaire?
Pour le moment, les citoyens ne perçoivent pas l'importance de ce pass vaccinal parce qu'il n'y a pas eu une... Il faut que les responsables politiques sortent à la télévision et expliquent aux citoyens pour que ça devienne vraiment une obligation et que les gens en prennent conscience. Actuellement, les gens sont comme une expectative un peu passive.
Et donc vous déplorez aujourd'hui un déficit de communication de la part de l'exécutif?
Oui, un déficit de communication des politiques, oui, des responsables politiques. C'est-à-dire que, par exemple, le ministre de la Santé, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de conférence de presse ou il n'est pas passé à la télé pour expliquer. Il y a juste des campagnes, des spots qui passe à la télévision ou à la radio.
L'ancien ministre et président d'État catholique en Tunisie, le docteur Halil Zaouia. Un premier cas positif au variant Omicron du coronavirus qui se répand à travers le monde a été identifié sur l'île française de La Réunion. Une annonce aujourd'hui du porte-parole du gouvernement. Ce sera demain de 11h30 à 13h à la Grande Mosquée de Paris. Un débat durant lequel le recteur Chemseddine Hafiz échangera sur son manifeste contre le terrorisme islamiste. Un débat animé par notre collègue à Radio Orient, Loïc Barrière. Un débat suivi d'une séance de dédicace. Le coup d'envoi aujourd'hui de la Coupe arabe de football. Elle débute par une affiche entre la Tunisie et la Mauritanie. Une rencontre depuis 11h ce matin. L'invité de Pluriel à 19h et 23h sera Roxane Lundy, conseillère municipale de Beauvais, membre de la Direction nationale de Génération. Émission préparée et présentée par Loïc Barrière. Vous êtes bien sûr Radio Orient. Il est midi 15, à midi 30, votre journal en langue arabe. J'aurai le plaisir de vous retrouver à 15h pour le Flash, 17h30 pour votre journal. Très bon début d'après-midi à l'écoute de Radio Orient.